Théologie fondamentale, 3 février 83, Père Philippe Rimond.
Je vais continuer avec vous et puis je verrai la question posée après. Je crois que nous sommes arrivés au terme de cette première question, Saint Thomas, sur ce que c'est que la doctrina sacra, ce que c'est que la théologie, c'est-à-dire l'écriture sainte sous une lettre unique a-t-elle plusieurs sens ? N'est-ce pas ? C'est bien ça, je crois. Vous voyez toujours comment Saint Thomas se pose la question au point de départ. Utrum sit scriptura sacra, huius doctrinae, secundum plures sensus exponenda. C'est une question très importante et très difficile. Vous voyez, c'est au fond pour ceux qui ont lu un peu le commentaire de Saint Thomas sur Saint Jean, c'est Saint Thomas qui nous fait comprendre la manière dont il fait de l'exégèse. Parce que l'exégèse n'est pas une chose nouvelle, hein. Elle existe depuis très très longtemps. L'herméneutique, expliquer un texte, c'est justement essayer de comprendre la signification profonde de ce texte. Et alors, cette exégèse se fait sur des plans différents. Et elle s'est faite de fait au cours de l'histoire de l'Église sur des plans très très différents les uns des autres. C'est intéressant de voir comment saint Thomas lui-même réfléchit sur ce problème de ce qu'est la parole de Dieu dans ses significations diverses. Je vous l'avais déjà dit, il faudrait, quand vous lisez l'Écriture depuis le début jusqu'à la fin, prendre une fiche. Et chaque fois qu'il est parlé de la parole de Dieu, en mettant telle ou telle signification, la parole de Dieu est comme un marteau. Comment la parole est-elle un marteau ? C'est quand même intéressant. Est-ce que c'est une analogie propre ? Est-ce que c'est une analogie métaphorique ? La parole de Dieu est un marteau. La parole de Dieu est comme un glaive. Hein ? Un glaive à double tranchant. La parole de Dieu est efficace. On ne dit pas comme, elle est efficace. Analogie métaphorique, analogie propre. Et relevez toutes les expressions. Je l'avais fait, je l'ai prêté à quelqu'un, ça ne m'est jamais revenu. Alors, c'est fait, c'est très bien. Ça fait partie du travail gratuit. Mais la vérité, ça m'avait apporté beaucoup, j'aurais dû en prendre un double, hein, mais je ne l'ai pas fait. Non, c'est pas. Mais c'est intéressant de faire une théologie de la parole de Dieu, de cette manière-là, par la parole de Dieu elle-même. Vous voyez ? Alors, ceux qui sont au point de départ de lire toute l'écriture depuis le début jusqu'à la fin, ayez la fiche parole de Dieu. Et vous verrez qu'il y a des tas de choses. Et comme ça, vous vous ferez à vous-même la théologie de la parole de Dieu. Parce que faire la théologie de la parole de Dieu, c'est justement essayer de comprendre la parole de Dieu est lumière. Analogie métaphorique, analogie propre. Très important de saisir ça. Vous allez voir comment. Hein. On va essayer de faire tout ce point de vue du mystère de la parole de Dieu. Donc. Cependant, Saint Grégoire dit, l'écriture sainte, par la manière même dont elle s'exprime, dépasse toutes les sciences, car dans un seul et même discours, tout en racontant un fait, elle livre un mystère. Alors, vous voyez, la philosophie analytique d'aujourd'hui du langage, hein, qu'est-ce que ça veut dire ? Tout en racontant uno eodem sermone, dum narrat gestum, prodit mysterium. Donc, elle narrat gestum, elle dit un geste, et en même temps, elle livre, elle dévoile un mystère. Alors, ça va être, vous allez voir, c'est ça qui va être très difficile. La parole de Dieu n'est quand même pas la même chose que la parole humaine. C'est déjà difficile de savoir ce que c'est que la parole humaine. Et il y a des tas de conceptions sur la parole humaine. Alors c'est intéressant de mettre en parallèle les deux. Quand je dis parole de Dieu, parole humaine, est-ce une analogie métaphorique? Est-ce une analogie propre? La parole de Dieu est comme la parole humaine. Où la parole de Dieu est totalement différente de la parole humaine. La parole humaine n'est pas efficace. C'est bien dommage. Quand je donne un ordre à quelqu'un, faites ceci, ça devrait être efficace. La parole humaine n'est pas efficace. La parole divine est efficace. Ça fait tout un quelque chose de tout à fait différent. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, voyons, hein. Essayons d'entrer dans la manière d'abord dont saint Thomas l'exprime, puis on essaiera de comprendre. Ça, c'est un article très très important, hein. Très très important, donc, pour saisir ce que saint Thomas conçoit sur le mystère de la parole de Dieu. Alors, il faudrait regarder toute l'exégèse moderne à travers la philosophie analytique, à travers l'herméneutique, et on verrait si c'est juste ou pas juste. Non pas en prenant saint Thomas comme modèle. Parce que j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de dire tout ce qui est après saint Thomas est faux, tout ce qui est avant est imparfait, saint Thomas seul est la lumière. Non, on peut avoir dit des choses importantes après. Alors, l'auteur de l'Écriture sainte est Dieu. Octor principalis. Hein, ajoutez ça pour être tout à fait précis. Octor principalis sacré scripturae est Deus Spiritus Sanctus. C'est l'Esprit Saint. Vous le dites dans le credo. Donc vous êtes bien obligé de le dire. L'auteur principal de l'Écriture, l'auteur principal de l'Évangile de Saint-Luc, c'est l'Esprit Saint. Luc, qu'est-ce qu'il est alors? Il est instrument? Est-ce que c'est un auteur propre? Mais comme ça pose des problèmes. Hein. Alors quand vous regardez la mentalité de Luc, je dis Luc parce qu'on vous en a beaucoup parlé, alors ça va bien. On remue quelque chose qui est tout à fait frais. Mais parce que, et puis Luc, c'est proche, hein, ou bien Saint Jean. Alors, l'agencement entre l'Esprit Saint et Luc, l'agencement entre l'Esprit Saint et Jean, qu'est-ce que c'est? Ou Saint Paul, tout simplement, ou Pierre quand il écrit, c'est dans l'Écriture sainte. L'auteur principal de l'Écriture sainte, c'est Dieu. Et saint Thomas dit même tout simplement, octor. Hein. Moi, je dis principalis. Mais saint Thomas dit octor. Octor, l'auteur de l'Écriture sainte, c'est Dieu. Or, il est au pouvoir de Dieu d'employer pour signifier quelque chose, non seulement des mots, ce que peut faire aussi l'homme, mais également les choses elles-mêmes. In cuius potestate, donc dans la puissance de qui, et non solum voces ad significandum accommodet, quod etiam homo facere potest, sed etiam res ipsas. Dieu a un double langage, un double registre, autrement dit. Il peut se servir des réalités pour signifier quelque chose, il peut se servir des mots pour signifier quelque chose. Mais que vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas le droit de dire à votre voisin, eh bien, je me sers de toi pour signifier des choses importantes. Je vais me servir de toi. Non, vous ne pouvez pas dire ça. Dieu se sert des res et des voces. Ça, c'est très, très important. Non, il y a les voces, la vox, et puis la res. Et Dieu se sert des deux. Il est au pouvoir de Dieu d'employer pour signifier quelque chose. Donc comme moyen de signification. Vous voyez, c'est tout le problème de la signification. Les voix, vocex, eres. Normalement, la voix, le langage, donc la parole, est utilisée pour signifier quelque chose. Elle signifie les réalités. Je me sers du langage chat pour exprimer le petit chat. Est-ce que je peux me servir du chat pour exprimer autre chose? Tu as un caractère de chat. Alors je me sers de chat pour exprimer le caractère de l'autre. Vous voyez bien. Alors je me sers de ce petit animal. Alors à ce moment-là, la réalité est utilisée symboliquement. Et je fais un jeu de mime avec le chat pour exprimer le radio. Tu vois exactement, tu fais comme ça, avec la souris. Comme le chat. Alors, voyez, c'est dit tout de suite. Or, il est au pouvoir de Dieu d'employer pour signifier quelque chose, non seulement des mots, ce que peut faire aussi l'homme, mais également les choses elles-mêmes. L'ordonne que dans toutes les sciences, les mots ont valeur significative. Celle-ci a en propre que les choses mêmes signifiées par les mots employés signifient à leur tour quelque chose. Donc, vous avez deux registres de signification. Premier registre, normal, la voix. Deuxième registre, la voix. La res. Deux registres de signification. C'est ça toute la difficulté. Si vous êtes dit les deux claviers. La voix qui renvoie à la res et la res qui renvoie au mystère. Qui renvoie à autre chose. Alors c'est pour ça que saint Thomas montre tout de suite que cette science particulière qui étudie l'écriture sainte, donc qui cherche la signification des mots, elle a quelque chose de beaucoup plus complexe que toutes les autres sciences. Les autres sciences, uniquement à partir des mots, expriment, signifient quelque chose. Là, il y a un double registre. Il y a les mots qui renvoient à la res et les res qui renvoient à autre chose. L'ordon que dans toutes les sciences les mots ont valeur significative, celle-ci a en propre que les choses mêmes signifiées par les mots employés signifient à leur tour quelque chose. Cela étant la première signification, à savoir celle par laquelle les mots signifient certaines choses, correspondent au premier sens qui est le sens historique ou littéral. Ça, c'est très important de bien comprendre. Voilà ce que c'est que le sens historique ou littéral. Historicus vel literalis. L'autre signification par laquelle les choses signifiées par les mots de nouveau signifient d'autres choses, c'est ce qu'on appelle le sens spirituel, qui est fondé sur le sens littéral et le suppose. Oui, les deux échelons. Alors, c'est intéressant de voir que le sens littéral et le sens historique et le sens littéral. Et puis ici, le sens spirituel. Voilà ce que nous dit saint Thomas. Mais quand saint Thomas dit, par exemple, les noces de Cana, mystiche signifie l'oraison. Vous voyez tout de suite. C'est pas le sens historique, évidemment. Mystiche, sens spirituel. On va essayer de comprendre. Vous allez voir. À son tour, le sens spirituel se divise en trois sens distincts. Vous voyez, tous les étages différents. En effet, comme le dit l'apôtre, la loi ancienne est une figure de la loi nouvelle. Et la loi nouvelle elle-même, ajoute Denis, est une figure de la gloire à venir. En outre, dans la loi nouvelle, ce qui a lieu dans le chef est le signe de ce que nous-mêmes nous devons faire. Donc, la loi ancienne par rapport à la loi nouvelle par rapport à la gloire. Et la loi nouvelle par rapport au chef et par rapport aux membres. Vous voyez tout ce que ça joue comme clavier. Hein. Quand donc les choses de l'ancienne loi signifient celles de la loi nouvelle, on a le sens allégorique. Donc le sens allégorique, c'est lorsque les choses de la loi ancienne signifient celles de la loi nouvelle. Quand les choses réalisées dans le Christ, ou dans ce qui signifie le Christ, sont le signe de ce que nous devons faire, on a le sens moral. Pour autant, enfin que ces mêmes choses signifient ce qui est de l'éternelle gloire, on a le sens anagogique. Anagogicus. Ne dites pas analogique, hein? Anagogique. C'est-à-dire celui qui monte. Ana, hein? Il monte. Anabase, hein? Vous avez traduit l'anabase dans le temps. Alors, xénophon, anabase, hein? On monte les échelons. Alors, c'est le sens. Comme d'autre part. Donc, voyez comment saint Thomas distingue ici sens littéral, sens allégorique, sens moral, sens anagogique. Vous en avez déjà quatre. Donc, vous avez de quoi vous tromper. Hein. Comme d'autre part, le sens littéral est celui que l'auteur entend signifier. Et comme l'auteur de l'Écriture sainte est Dieu, qui comprend simultanément toute chose dans la simple saisie de son intelligence, il n'y a pas d'obstacle, ainsi que le note saint Augustin, à ce que selon le sens littéral même, dans un seul passage de l'Écriture, il puisse y avoir plusieurs sens. Alors c'est ça, c'est le point de vue très contesté d'aujourd'hui. C'est dans ce sens-là que saint Augustin dit que le sens de l'Écriture, l'Écriture peut avoir des sens infinis. Parce que l'auteur principal est l'Esprit-Saint, qui a un regard beaucoup plus profond que nous, ça c'est évident. Alors, je relis cette dernière phrase, parce que c'est là, c'est « in coda venenum hein. ». Jusque-là, tout le monde est d'accord, hein. Mais là, à la fin, c'est pas commode du tout. Vous voyez ? Et c'est très important, vous comprenez ? C'est très important de signifier qu'est-ce que exactement le sens littéral ? Qu'est-ce que c'est que le sens littéral exactement ? Donc, comme d'autre part, le sens littéral est celui que l'auteur entend signifier. Voilà le sens littéral. C'est celui que l'auteur entend signifier. Mais comme l'auteur principal, c'est l'Esprit Saint, je n'ai pas le droit de dire le sens littéral, c'est ce que l'auteur, cause seconde, instrument, veut dire. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. Tout l'équivoque est là. Oui. C'est cette petite phrase qui n'a l'air de rien, mais qui est capitale. Hein. Comme d'autre part, le sens littéral est celui que l'auteur entend signifier. C'est bien évident, c'est sens littéral. Quand vous écrivez à quelqu'un, « J'ai rencontré un chat. Hein, » oui, oui. Et cette personne dit « chat, qu'est-ce qu'il veut dire par chat ?» N'est-ce pas qu'est-ce qu'il dit ? Il veut sûrement exprimer quelque chose de très important. « J'ai rencontré un chat. » Alors que vous, dans votre sens, tout simplement, oui, vous sortez de la chapelle, vous rencontrez un chat. C'est tout. Si vous n'êtes pas superstitieux, vous dites, je rencontre un chat, c'est tout. Mais l'autre personne qui dit, mais il y a autre chose là derrière, vous voyez, quel est le sens littéral ? C'est l'intention de l'auteur. Puisque les mots, je m'en sers pour exprimer quelque chose. C'est pour ça que c'est très important de saisir ici le sens littéral. Comme le sens littéral est celui que l'auteur entend signifier. Quia sensus literalis est quem auctor intendit. C'est ce que l'auteur intendit. Donc l'intention de l'auteur, il veut signifier par ça. J'ai rencontré un chat, oui j'ai rencontré un chat, je vous affirme, je ne pense qu'au chat. J'ai rencontré un chat, c'est tout. Mais non, vous avez voulu dire autre chose. Vous avez voulu dire... Pas du tout. J'ai voulu simplement dire, j'ai rencontré un chat. Ou une chauve-souris, si vous aimez mieux. Je ne sais pas si c'est ce que ça peut signifier. J'ai rencontré une bête extraordinaire, invraisemblable. Alors, comme d'autre part le sens littéral est celui que l'auteur entend signifier, et comme l'auteur de l'écriture est Dieu, alors c'est ça qui est important, qui comprend simultanément toute chose dans la simple saisie de son intelligence. Omnia simul suo intellectus comprehendit. Il n'y a pas d'obstacle, ainsi que le note saint Augustin, alors regardez le lieu, à ce que, selon le sens littéral même, dans un seul passage de l'écriture, il puisse y avoir plusieurs sens. Alors, voyez, la note 21, vous allez voir, hein, c'est intéressant, parce que ça, c'est une chose très, très importante. Et je vous affirme, ça a fait couler pas mal d'encre. C'est intéressant à voir, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est quelque chose qui en vaut la peine, c'est la manière dont saint Thomas lui-même... Alors, je lis la note, c'est du père Gardeil. « Dans son apparente simplicité, cette détermination s'inscrit en réalité dans une histoire fort complexe qui court tout au long du Moyen-Âge. » Oui, alors on va essayer de mettre ça dans un cadre bien précis, le Moyen-Âge. Est-ce que saint Thomas parle au nom du Moyen-Âge ou est-ce que saint Thomas parle d'une façon beaucoup plus générale pour essayer de saisir ce que l'Esprit-Saint veut dire à travers un auteur qui lui peut très bien ne rien comprendre du tout. Vous comprenez que c'est important ça. Quand Isaïe dit « la Vierge enfantera », quel est le sens littéral? Est-ce que c'est le sens historique que pensait Isaïe, pouvait penser uniquement, il y a eu cette chose, c'est ce qu'on dit aujourd'hui, du reste. Le sens littéral, c'est ça, tout simplement. Ah, l'auteur principal, c'est l'Esprit Saint. Alors quel sens littéral? Celle que l'auteur intendit. Alors, vous voyez, on ne se mouille pas en disant, dans son apparente simplicité, cette détermination s'inscrit en réalité dans une histoire fort complexe qui court tout au long du Moyen-Âge. Étant admis que l'écriture sainte est le matériau premier et essentiel de toute pensée chrétienne, il est évidemment primordial de savoir la comprendre dans toute sa richesse et avec exactitude. Tâche qui n'est point toujours aisée d'accomplir, une fois surtout reconnue que sous son sens le plus immédiat, elle recèle d'autres sens plus mystérieux et plus cachés. Pour apprécier, tant dans sa signification historique que dans sa portée doctrinale, la solution de saint Thomas, on se rapportera au développement des notes doctrinales, on y renvoie. Il voit le poisson. C'est difficile, hein, saisir ça. C'est toute la difficulté, là. Alors, il faut au moins savoir qu'il y a un lieu, qui est un lieu important à saisir, et où saint Thomas, hein, c'est très beau, ça, non solum, non est in conveniens, non est in conveniens. Si etiam secundum literalem sensum, in una litera scriptura, plures in sensus. Donc, un seul, dans une seule parole, il peut y avoir plusieurs sens. Dans un seul sens littéral, donc des couches différentes. Vous voyez, alors, ce que les exégètes aujourd'hui arrivent à dire, le père Brown prenait ça, en disant, il y a le sens plénier. C'était déjà essayer de comprendre qu'il y avait des étages différents. Il y avait l'étage immédiat, vous voyez, qu'on pourrait regarder historiquement. Et puis, il peut y avoir autre chose, quelque chose qui vient après. Alors, le sens plénier qui va s'expliquer après. Bon, on va y revenir après, ça. Je vais tout de suite regarder maintenant les différentes questions. Mais voyez, là, il y a un os, hein. Il y a un fameux. Hein. Alors, ceux qui s'intéressent, regardez dans les Confessions de saint Augustin, livre 12, chapitre 31. J'ai traité un peu cette question dans la préface pour le commentaire de saint Thomas. Non, parce que ça m'intéressait et que c'est quand même intéressant. Je crois que c'est très intéressant d'essayer de comprendre cela. Je ne dis pas que c'est ce que j'ai dit n'est pas admis par tout le monde. Hein, c'est bien évident. Alors, voyons les objections. Il semble bien que l'écriture n'a pas, sous une seule lettre, plusieurs des sens ainsi distingués. Donc c'est directement en objection avec la fin. Je dis une coda venenum. Alors on reprend l'objection. Le sens historique ou littéral, le sens allégorique, le sens tropologique ou moral, le sens anagogique. Une multiplicité de sens pour un seul passage engendre en effet la confusion, prête à l'auteur et rend le raisonnement incertain. Pardon, prête à l'erreur et rend le raisonnement incertain. C'est pourquoi une argumentation véritable ne procède pas de propositions au sens multiple, bien plus. C'est à partir d'elle que certains sophismes sont définis. Or, l'Écriture sainte doit être apte à nous montrer la vérité, sans prêter occasion à l'erreur. Elle ne peut donc nous offrir, sous une seule lettre, une pluralité de sens. Ça, c'est ceux qui défendent l'Écriture uniformément. Il n'y a qu'un seul sens littéral, et c'est celui-là que l'exégèse vous donnait. L'exégèse moderne. Vous voyez bien, c'est très intéressant, ça. On tombe pile vers des problèmes très, très difficiles, ça. C'est les gros problèmes d'aujourd'hui, ça. C'est les gros problèmes d'aujourd'hui, et c'est toute une conception vis-à-vis de la parole de Dieu. Alors, il s'agit de comprendre, hein. Puis après, on essaie de faire ce qu'on peut, hein. Mais il faut au moins comprendre. Et cette objection est très, très juste, hein. Si vous acceptez qu'à travers une seule parole, il y a divers sens, mais alors vous tombez dans la confusion. Tout simplement. Non, la fin. Est est non non. Et Jésus le dit, est est non non. Donc c'est dit comme ça et ça veut dire uniquement ça. Mais vous oubliez que l'Écriture, quand même, hein, l'auteur principal, c'est le Saint-Esprit. L'auteur principal a une intelligence plus profonde que la vôtre. Alors, est-ce que c'est ce que vous connaissez directement par le point de vue d'une étude historique qui va vous donner le sens propre? Ou est-ce que c'est la foi? C'est vrai, je peux regarder une chose par un point de vue purement historique. Ou est-ce que je dois regarder autrement? Est-ce que le sens littéral est donné à l'intérieur de la foi ou est-ce qu'il est donné à l'extérieur de la foi? C'est la grosse, grosse question, ça. Ça, je crois qu'il faut bien le voir, parce que c'est, je vous dis, c'est le problème numéro un aujourd'hui, au point de vue théologique. Hein. Tout tourne autour de l'herméneutique. Et l'herméneutique est vraiment le problème de la théologie fondamentale, vous voyez, c'est-à-dire le problème de savoir si la parole de Dieu peut être interprétée de multiples manières, et comment peut-elle être interprétée de multiples manières. Alors, c'est très important. Alors, saint Thomas répond. La multiplicité des sens invoqués ne fait pas équivoque, pas plus qu'aucune espèce de multiplicité de ce genre. En effet, d'après ce qui a été dit, on ne les multiplie point pour cette raison qu'une même parole signifie plusieurs choses. Mais parce que les choses elles-mêmes signifiées par les paroles peuvent en signifier d'autres. Comprenez bien. C'est les deux plans. C'est les deux plans qui font la multiplicité. L'équivoque viendrait que la voix qui signifie la réalité signifierait deux choses. Œil de bœuf. Vous voyez, l'œil de bœuf, ça peut signifier deux choses. Ça fait, donc, c'est équivoque. Donc, si dans l'écriture, vous voyez l'œil de bœuf, ça peut signifier deux choses. Ça peut signifier l'œil du bœuf ou au contraire. Bon, en fonction du contexte, si on est un peu intelligent, on le fait tout de suite, la distinction. On voit tout de suite ce que ça signifie. espèce d'âme. Ça peut signifier aussi deux choses différentes. Hein. C'est. Bon, alors vous pouvez très bien. Alors ça, c'est la foi. Tandis que saint Thomas a dit, ah non, 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 pas d'équivoque, parce que c'est un étage, deux étages. Et ça, c'est le propre de la parole de Dieu. C'est pour ça que c'est si important. C'est bien ce qu'il dit. Hein. La multiplicité des sens invoqués ne fait pas équivoque. Pas plus qu'aucune espèce de multiplicité de ce genre. En effet, d'après ce qui a été dit, on ne les multiplie point pour cette raison qu'une même parole signifie plusieurs choses. Mais parce que les choses elles-mêmes signifiées par les paroles peuvent en signifier d'autres. Il y a un ordre. Dès qu'il y a un ordre, il n'y a plus d'équivocité. Dès qu'il y a un ordre, il y a analogie. Mais il n'y a pas équivocité. Il y a analogie, il y a un ordre. Il faut comprendre. Il n'y aura pas non plus de confusion dans l'écriture, car tous les c'est bien ce qu'il dit, hein. La multiplicité des sens invoqués ne fait pas équivoque, pas plus qu'aucune espèce de multiplicité de ce genre. En effet, d'après ce qui a été dit, on ne les multiplie point pour cette raison qu'une même parole signifie plusieurs choses. Mais parce que les choses elles-mêmes signifiées par les paroles peuvent en signifier d'autres. Il y a un ordre. Dès qu'il y a un ordre, il n'y a plus d'équivocité. Dès qu'il y a un ordre, il y a analogie. Mais il n'y a pas équivocité. Il y a analogie, il y a un ordre. Il faut comprendre. Il n'y aura pas non plus de confusion dans l'écriture, car tous les sens autres que le littéral reposent sur ce premier, et l'on ne pourra argumenter qu'à partir de lui, à l'exclusion des sens allégoriques, ainsi que l'observe saint Augustin contre le donatiste Vincent. Rien ne sera cependant perdu de l'écriture sainte, car rien de nécessaire à la foi n'est contenu dans le sens spirituel que l'Écriture ne nous livre clairement ailleurs dans le sens littéral. Vous voyez, première réponse, hein, ça répond en partie. Hein. Ça montre qu'il y a un ordre dans ces différents sens. Et je ne suis pas devant une équivocité. J'écarte l'équivocité en montrant que tout provient le premier sens et le second. Il y a un autre. Donc, j'ai le sens littéral, et puis ici, j'ai les sens différents. Et les sens différents, saint Thomas avait dit, le sens moral, le sens allégorique, et puis le sens analogique. Retenez ces sens-là. Trois. Qui proviennent de la race, et puis un qui provient de la vox, le sens littéral et stylique. Alors ça ne m'a dit pas d'équivocité parce qu'il y a un ordre. Mais vous voyez, ça ne répond pas tout à fait à la fin du cours de l'article. Hein. Hein, c'est intéressant à voir. Donc la question de la fin de l'article demeure. À première vue, ça semblerait, mais en réalité, non. Deuxième objection. Donc, pas d'équivocité, même à cause de la diversité des sens. Parce qu'il y a un ordre dans la diversité de ces sens. Tout simplement. Il y a un ordre. Je vois deux niveaux d'intelligibilité. Deux niveaux de signification. La signification directe par la voix. Sens littéral, sens historique. Alors, est-ce que je peux mettre absolument égal sens littéral et sens historique ? D'après la fin de l'article, pas tout à fait. Et c'est là la difficulté. Sens historique, je vois très bien. Mais vous voyez, quand vous prenez une parole prophétique, la Vierge enfantera, quel est le sens historique ? Quel est le sens littéral ? Et c'est là où la difficulté commence. Hein. Alors, voyons la seconde objection. Dans son livre « L'utilité de croire », saint Augustin dit « Cette partie de l'écriture qu'on appelle l'Ancien Testament se présente sous quatre formes, l'histoire, l'étiologie, l'analogie, l'allégorie. » Division qui paraît bien être étrangère à celle qui a été proposée plus haut. Il ne semble donc pas convenable que l'écriture sainte soit exposée suivant les quatre sens énumérés en premier lieu. Oui, alors vous allez en ajouter. Hein. C'est déjà pas mal, quatre. Hein. Un, et puis ici trois, ce qui fait quatre. Puis j'en ajoute là d'autres. Hein. J'ajoute cette parole de saint Augustin de l'utilité de croire. Alors je vais dans saint Augustin, on a toute histoire, étiologie, analogie, l'allégorie. Donc deux de plus. Alors voici comment saint Thomas va répondre. Trois de ces sens énumérés ici par saint Augustin se rapportent au seul sens littéral, l'histoire, l'étiologie et l'analogie. Il y a histoire, explique saint Augustin lui-même, lorsqu'une chose est simplement exposée, narrate, on narre. Ça, c'est tout à fait l'histoire. Il y a étiologie quand la cause, oui, aïsios, hein, aïsios la cause. Hein. Alors, c'est, évidemment, en français, ça ne dit pas très bien la chose. Mais vrai, c'est le mot grec. Hein. Donc, aïsios, il y a étiologie quand la cause de ce dont on parle est indiquée. Comme lorsque le Seigneur explique pourquoi Moïse donna licence aux Juifs de répudier leur épouse. À savoir, en raison de la dureté de leur cœur. Oui, alors là, je donne une cause. Pourquoi il a permis ça? Parce qu'il à cause de la dureté de leur cœur. Ça reste dans le sens historique, avec la cause. Il y a enfin analogie quand on fait voir que la vérité d'un passage de l'Écriture n'est point en opposition avec la vérité d'un autre passage. Reste l'allégorie, qui, à elle seule, dans l'énumération de saint Augustin, tient la place des trois sens spirituels. Oui, saint Thomas s'en tire merveilleusement. C'est quand même une chose extraordinaire. Donc, il va mettre dans le sens littéral, il va compléter le sens littéral et le sens historique. En mettant, lorsque la cause est exprimée, le « parce que », je reste dans le sens littéral. Et lorsque l'analogie, lorsque je fais une comparaison avec un autre, je reste dans le sens historique. Donc vous avez le sens historique et littéral qui va impliquer ces deux choses-là. Et alors le sens allégorique, tout simplement... Donc, voyez, ne confondons pas anagogique et analogie, hein, puisque l'un demeure dans le sens littéral et l'autre demeure dans le sens spirituel. C'est pas commode, ça vous fait un fourre-tout. Hein. Mais c'est intéressant, parce que saint Thomas, vous voyez, par rapport au père de l'Église, il essaie de voir que, de fait, tous les pères de l'Église ont été intéressés sur la signification de la parole de Dieu et les différents étages de la signification de la parole de Dieu. Hugues de Saint-Victor range lui aussi le sens anagogique sous le sens allégorique, retenant ainsi dans son troisième livre des sentences trois sens seulement, à savoir le sens historique, le sens allégorique et le sens tropologique. Alors, dernière objection. Enfin, en dehors des quatre sens précités, il y en a un, le parabolique, qui n'est pas compris parmi eux. Le parabolique, évidemment, la parabole. Qu'est-ce que ça veut dire en plus là-dessus? Est-ce que la parabole est un sens littéral? J'espère que vous comprenez l'analogie. Hein. Alors, le sens parabolique, quant à lui, est inclus dans le sens littéral, car par les mots, on peut signifier quelque chose, ou pardon, parce que car par les mots, on peut signifier quelque chose au sens propre et quelque chose au sens figuré. Et dans ce cas, le sens littéral ne désigne pas la figure elle-même, mais ce qu'elle représente. Quand, par exemple, l'Écriture parle du bras de Dieu, le sens littéral n'est pas qu'il y ait en Dieu un bras corporel, mais ce qui est signifié par ce membre, à savoir une puissance active. Oui, c'est le sens symbolique. Le sens symbolique fait partie du sens littéral. Hein ? Vous voyez bien, ça c'est très important pour comprendre. Donc le sens littéral, et c'est pour ça que j'ai été du côté analogique. Sens symbolique. La parabole, c'est parler en symbole. Alors à ce moment-là, ça fait partie du sens littéral historique. Mais ce sens littéral historique signifie quelque chose qui lui-même signifie autre chose. Parce que c'est un symbole. Alors quand je parle du bras de Dieu, le sens littéral, c'est la toute-puissance de Dieu. C'est le sens littéral. Le sens littéral, c'est pas le bras de Dieu. Et leur dire la toute-puissance, c'est un sens spirituel. Pas du tout. Le sens, et c'est ça qui est difficile. Hein. C'est de comprendre, puisque je vous ai dit, toujours Dieu exprime à travers des réalités un mystère. Donc il y a le sens symbolique. Et le sens symbolique fait partie du sens historique et du sens littéral. Donc, quand, par exemple, l'Écriture parle du bras de Dieu, le sens littéral n'est pas qu'il y ait en Dieu un bras corporel, mais ce qui est signifié par ce membre, à savoir une puissance active. D'où il appert que dans le sens littéral de l'Écriture, jamais il ne peut y avoir de fausseté. Il ne peut pas y avoir d'erreur. Donc, voyez, la fin de l'article de saint Thomas, je le relis maintenant. Maintenant, nous avons fait tout le tour. Hein. Nous avons bien vu comment on voit ces différents sens et comment, à l'intérieur du sens littéral et du sens historique, on met un sens étiologique et un sens analogique. On met la connaissance symbolique, qui est tout simplement une manière particulière de parler. Les gens le savent bien. Vous savez bien que les Japonais ont une conversation symbolique. Je connaissais un Japonais comme ça, qui est dans une situation délicate, et quand dans ce temps, on venait le visiter, il me dit « J'ai eu avec cette personne un langage symbolique, ce qui m'a permis de rien dire. » Et quand on m'interrogeait, je répondais symboliquement, ce qui m'a permis de rien dire. C'est merveilleux, ça. En français, c'est plus difficile. Quand un gendarme vient vous voir et vous visiter, dire qu'est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous... Répondez symboliquement. C'est plus difficile, hein. À la douane, répondez symboliquement. Alors, je revois la dernière partie, saint Thomas, comme d'autre part, le sens littéral est celui que l'auteur entend signifier. Quem octor intendit. Et comme l'auteur de l'Écriture sainte est Dieu, qui comprend simultanément toute chose dans la simple saisie de son intelligence. Il n'y a pas d'obstacle, ainsi que le note saint Augustin, à ce que, selon le sens littéral même, dans un passage de l'Écriture, il puisse y avoir plusieurs sens. Mais comme ça reste difficile, hein, comparativement à ce qu'il veut dire. Donc on a l'impression à ce moment-là, vous voyez, que le sens littéral puisse englober les autres sens. Et qu'à travers le sens, ces sens spirituels, on retrouve le sens littéral, au terme. C'est bien ce que ça a l'air de dire, hein, si je lis ce passage, et ce qui expliquerait ce que saint Augustin dit, que dans la parole de Dieu, il peut y avoir des sens infinis qui se dévoilent progressivement. Autrement dit, je prends si vous voulez un exemple. L'Église définit que Marie est immaculée. À partir de cette définition, il va y avoir dans l'Écriture une nouvelle signification qui va être une signification littérale. Alors que je ne pouvais pas le voir avant. Et que saint Thomas ne pouvait pas le voir. Mais du fait que l'Église définit quelque chose, immédiatement, je vais pouvoir comprendre qu'une telle chose... Ah oui, c'est ça que ça veut dire. Donc des sens qui restaient cachés jusque-là, ils étaient symboliques. Mais, et le symbole se dévoile. Et je découvre alors, à ce moment-là, tel un lys au milieu des ronces. Puisque l'Écriture prend ça, puisque l'Église prend ça pour exprimer. Tel un lys. Bon, c'est exprimer quelque chose qui est symbolique, c'est très vrai, dont le sens restait caché, mais quand le dévoilement s'est fait, alors à ce moment-là, le sens littéral prend une signification nouvelle. Et je crois que c'est ça que saint Thomas veut dire, hein, et c'est ça que saint Augustin veut dire. C'est que l'Écriture est un livre dont la signification est infinie. Je ne peux jamais dire « j'ai découvert tout le sens de l'Écriture », non. C'est infini. Et la tradition est là pour donner la signification multiple et diverse. C'est pour ça que le père Feuillet disait « un véritable exégète doit regarder la manière dont les saints ont compris la parole de Dieu ». Et il disait « un véritable exégète devrait tenir compte de la manière dont la petite Sainte Thérèse » il prenait la Sainte Thérèse parce que c'était la dernière, disons, « la manière dont un père Kolb ou une petite Sainte Thérèse comprend la parole de Dieu. » Puisqu'il cherche la signification de l'auteur principal. Et l'auteur principal, c'est l'Esprit Saint. Et un saint comprend la parole de Dieu dans une profondeur que les autres ne comprennent pas. Et donc, il y a un sens littéral qui s'explique à travers les saints. Et qui s'explicite. Vous voyez, on est loin d'un sens littéral pris positivement, d'une façon historique. Hein. Ce n'est pas tout à fait ça. Et je crois que c'est ça qui est exprimé. C'est ça qui est très difficile. Hein. Et là, vous voyez, c'est là où il y a tous les conflits entre ce qu'on pourrait appeler l'exégèse scientifique et le point de vue théologique. Parce que c'est vrai que l'exégèse scientifique reste au niveau littéral et historique, mais un littéral historique qui n'est pas littéral et historique au sens où saint Thomas le dit. Parce qu'il y a le point de vue, je prends tout simplement ce que donne saint Thomas. Ce n'est pas moi qui le dis, ça. C'est saint Thomas qui le dit. Et alors ça rejoint ce que dit le Saint-Père, que l'exégète, la conclusion de l'exégète ne nous donne pas le sens littéral. C'est l'Église seule qui peut le déterminer. C'est l'Église seule. Et le Saint-Père le dit explicitement, ça. Eh bien, quand le Saint-Père actuel, il le dit explicitement. Il dit, les exégètes sont des serviteurs de l'Église et de l'enseignement actuel de l'Église. Et le Père Feuillet dit, les exégètes sont serviteurs des serviteurs. Il me l'a dit à moi personnellement. Le théologien est serviteur. Et c'est l'Église qui détermine le sens littéral. Puisque c'est l'Esprit Saint. Qu'est-ce qui peut le déterminer? C'est l'Église. Par sa tradition et par son enseignement actuel. Et c'est pour ça que le Saint-Père dit que c'est le magistère qui détermine le sens littéral de l'Écriture pour la norme de la foi. C'est le magistère qui donne la norme de la foi. Ce n'est pas l'exégète. Ce n'est pas le théologien. La norme de la foi, c'est remonter directement au sens de l'Écriture, tel que l'Église, dans son enseignement actuel, nous le donne. Oui, c'est très très important, ça. Et c'est bien ce que saint Thomas nous dit ici. Quand il dit, voyez, et c'est tout repose là-dessus, sur cette petite parole, hein, très simple, mais cette petite parole très capitale, quia vero sensus literalis est, quem octor intens. Donc, le sens littéral, c'est ce que l'auteur veut dire. Intendit veut dire. L'auteur étant l'Esprit Saint. L'auteur principal, il le dit tout de suite, auctor autem sacris spiritus est Deus. Tandis que je crois qu'on peut dire que la plupart du temps, dans l'exégèse moderne, on dira le sens littéral et le sens historique, c'est ce que l'auteur Luc veut dire. Oui. Luc ou Marc ou Jean sont-ils auctors au sens propre, non? Ils sont instruments d'auteur. Instruments comme amis, c'est évident. Alors d'une certaine manière, ils font une œuvre commune, mais ils s'effacent devant. Et c'est en ce sens-là qu'il y a là, vous voyez, c'est là toutes les difficultés, ça fout. Il faut reconnaître, c'est très très difficile, c'est pas commode du tout. Mais je crois qu'il faut au moins saisir la difficulté. Il faut au moins saisir la difficulté pour montrer que c'est pas si commode que ça. C'est pas si commode que ça. L'exégèse et le Saint-Père, je vous dis, je retrouverai, parce que c'est important, il y a un lieu très important, comme ça peut dire. Alors évidemment, c'est l'enseignement classique de l'Église, c'est pas une encyclique, c'est pas. Mais il y a une encyclique qui montre l'importance de l'exégèse. Mais les exégètes, à ce moment-là, se sont emparés de ça en disant « c'est nous qui donnons le sens littéral ». Non. Ce n'est pas l'exégète scientifique qui donne le sens littéral. Le sens littéral est donné par l'Église. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs.